Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en direct de Montréal en ce 14 janvier, à près d'un mois, le jour pour jour du début du tournoi olympique de hockey. Donc, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui à l'émission. On va aussi parler de ce qui se passe chez les Canadiens, pour qui ça va plutôt bien présentement, malgré la défaite hier du côté de Washington. Lundi, le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey a dévoilé sa liste des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, patineurs nord-américains, patineurs internationaux. Donc, aujourd'hui, on va recevoir le dépisteur du Bureau central, Jean-François Danfousse, qui va venir nous expliquer un peu comment tout ça a fonctionné, nous parler de quelques-uns des espoirs qui se retrouvent sur cette liste-là. Chers auditeurs, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute à peu près qui peuvent exister, Apple, Spotify, entre autres. Faites une recherche, la tasse de café, vous allez nous trouver. Et si vous voulez nous voir, moi, nous inviter, regardez-nous, on est sur YouTube aussi. Faites une recherche, la tasse de café, pour nous voir en vidéo avec nos invités. Aujourd'hui, avec moi, le premier, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume!
Salut Nick.
Comment tu vas?
Ça va très bien,
ça
toi?
Ça va très bien. Et Jean-François Chaumont, c'est GF.
Salut Nick, salut Guillaume.
Les gars, on va parler un peu de ce qui se passe chez les Canadiens. Deux matchs en deux jours. Belle victoire contre les Canucks de Vancouver lundi. Hier, contre les Capitals de Washington, c'était un petit peu plus compliqué. On menait 2-0, mais on s'était incliné 3-2. Écoutez, c'était un... Tu sais, tu veux pas trouver d'excuses à une équipe de sport, peu importe, tout sport confondu. Reste que hier, ce qu'on a vu en troisième période chez le tricolore, c'était un peu inévitable, la fatigue qui a vraiment rattrapé les deux jambes, les deux jambes de tout le monde. Mais avez-vous l'impression que malgré tout, chez le tricolore, on sort de là avec pas nécessairement du négatif versus un match où on se serait normalement fait remonter après avoir pris l'avance 2-0?
Mais je pense pas que le résultat final, oui, déçoit, étant donné que le CH menait 2-0, mais tu dois regarder l'ensemble du match. C'était un cinquième match en 7 jours. C'était une arrivée au petit matin du côté de Washington.
À 3 heures, hein? ça rappelle...
Oui, apparemment que le dodo, c'était près de 3 heures du matin, ouais, du côté de Washington. C'était deux matchs en deux soirs pour finir ce marathon-là de 5 en 7. Puis aussi, il ne faut pas oublier, le lundi, les matchs prime, la rondelle tombe sur la glace à 7h45. Pas 7h30, pas 7h. Donc, ça fait en sorte que le deuxième match vient encore plus vite. Oui, il y avait de l'essoufflement.
Souviens-tu quand les matchs étaient 7h30 les samedis soirs à soirée du hockey? Là, c'était un ouais, peu le... On pouvait se coucher plus tard. Les lundis, ben, t'sais, on est plus vieux maintenant. On se couche plus tôt. C'est différent.
Mais combien de fois qu'on en a parlé, c'est un calendrier qui est très éreintant. Ouais. Si tu regardes simplement les deux derniers matchs, de sortir avec 3 points sur une possibilité de 4, je crois que c'est encourageant. La sortie aussi de Samuel Montembeau, le beau finir avec une défaite en prolongation, de voir que Montembeau est très solide. Sans lui, ça aurait craqué plus rapidement. Il a connu un départ de qualité du côté de Washington. Donc, je pense que d'obtenir un point contre les Caps, une équipe qui historiquement donne quand même des maux de tête au CH. Là. Oui, Tom Wilson ne jouait pas hier du côté de Washington, mais je pense que tu oublies assez rapidement la troisième période quand tu prends le contexte de la fatigue. Tu as raison, ils vont dire que ce n'est pas une excuse, mais ça reste une réalité. Puis tu regardes du côté de la ligne bleue, on en parle souvent, mais hier, il y a Jaden Struble qui était amoché depuis la mise en échec de Dylan McElrath. Arber Jacky a eu un 5 minutes, un 10, un 2 pour être venu à la défense de Struble en engageant le combat contre McElrath. Résultat, tu joues à 4 défenseurs pour une grande partie de ce match-là.
Disons que
surtaxe Noah Dobson, Mike Matheson, donc tu manques d'énergie en fait.
Disons que Jacky n'a pas choisi son meilleur moment pour prendre cette décision-là avec l'instigateur.
Ben oui, non, parce qu'il est sur la glace, ça vient de se produire. Tu peux probablement attendre, mais il faut que tu te places dans le contexte où c'est contre les Capitals. L'aspect émotion est peut-être un petit peu plus grand étant donné qu'en série, c'est une équipe qui avait eu l'avantage physiquement. Puis Jacky, ça reste que c'est son rôle de protéger ses coéquipiers, mais c'est vrai que ça me manquait un petit peu de subtilité. C'était difficile de ne pas lui donner l'instigateur pour ce combat.
Il y a une manière de faire, c'est-à-dire, jette pas les gants, un bon coup de poing sur le nez avec le gant. Tu notes le... Là, à partir de là, si Michael Rad jette les gants, on a réglé ça, ça se règle. Sinon, tu gardes un numéro, t'en jases plus tard. Mais ça, surtout avec Strouble qui était... Bon, ça, c'est dans le feu de l'action. Là, t'as pas le temps de te dire, OK, c'est un défenseur qui vient d'être blessé, tout ça. Mais, tu sais, Jack High, on parle souvent de maturité. On parle souvent de bien choisir ses moments. Ça, c'en était un très mauvais moment dans l'exécution. C'est ça, maintenant, la Ligue nationale de hockey, tu peux plus sauter un gars comme tu le faisais avant avec une grosse mise en échec. La Ligue a mis l'accent sur la pénalité d'instigateur dans ses rencontres avec les officiels puis tout ça pour éviter justement ces scènes-là. C'est quelque chose que Jack High aurait dû prendre en considération. Puis ça a coûté cher parce que c'est une des choses qui a coûté cher. L'autre, on va en parler plus tard, c'est le 5 contre 3 en fin de deuxième période qui n'a pas payé ses dividendes, qui aurait pu lancer le tricolore vers une troisième période beaucoup plus facile. Tenue de Samuel Montembeault. À vrai dire, si en troisième période, Samuel Montembeault n'est pas là, probablement que ce match-là, ça va même pas en prolongation, on ne ramasse pas ce gros point-là. C'est encourageant. Là, c'est quoi? C'est quatrième victoire consécutive pour Montembeault.
3-0-1.
3-0-1? Oui, non? Je me suis trompé, oui, c'est vrai.
Mais il a perdu en prolongation du côté de Washington.
Oui, il n'a pas gagné hier. Qu'est-ce que je veux dire?
Nick qui a arrêté le match après la deuxième.
Moi, j'ai arrêté ça. J'ai été me coucher. J'étais fatigué moi aussi. Là, hein, non, mais c'est ça. Effectivement, 3-0-1, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes encourageants pour Montembeault depuis qu'il est revenu de Laval. C'est pas parfait. Encore le contrôle de ses retours, tout ça, il y a du travail à faire, mais quand vous regardez ça, ça ne fait que rajouter quelques ingrédients à la soupe qu'est la situation des gardiens présentement à Montréal d'ici les prochains jours.
Ben, honnêtement, tu regardes le match d'hier, 10 tirs en prolongation pour les Capitals, 15 en troisième. C'est là que tu vois vraiment que la machine a arrêté de fonctionner du côté des Canadiens. Mais Samuel Montembeault, qui, ça c'est intéressant, avait fait le voyage... Il n'était pas à Montréal lundi pour le match contre les Canucks. Il avait déjà fait le voyage à Washington là, avec la situation des trois gardiens. Mais c'est un des petits avantages qu'on a. On a pu faire voler Samuel Montembeault plus tôt pour lui permettre d'avoir une bonne nuit de sommeil puis d'être prêt à affronter les Capitals.
Il faut en trouver, non, mais faut en trouver des avantages.
Oui, il faut le souligner quand il y a des avantages. J'ai trouvé que, tu sais,
c'était intelligent. La différence, c'est vraiment intelligent là, comme décision de la part du tricolore. Là.
C'est bien pensé, puis ça a probablement permis d'aller arracher un point parce qu'un gardien qui est fatigué, qui est pas vraiment dans son assiette, dans un match comme celui-là, là, avec ce volume de tirs-là, je pense que ça aurait pu aller de l'autre côté assez rapidement. Mais la différence entre Samuel Montembeault, le Samuel Montembeault qu'on a vu hier et le Samuel Montembeault qu'on voyait pendant sa séquence difficile, ça sautait aux yeux hier. T'sais, il n'est jamais déporté, il n'est jamais croche dans son filet, alors qu'il y a quelques semaines seulement, c'était un gardien qui était perdu complètement dans son demi-cercle, qui se déportait d'un bord et de l'autre. Hier, il était solide, était devant la rondelle. Les retours, bon, il y a eu certains retours un peu dangereux, mais... Somme toute, c'est très, très rassurant de voir Samuel Montembeault revenir un peu à ce qui nous a habitués l'an dernier. Hier, ça a été l'un des grands artisans de ce point-là qu'on est allé chercher du côté de Washington. Tu regardes le but de la victoire, c'est un fait l'arrêt sur le premier tir. On a un joueur tout seul devant, il ne pouvait pas faire grand-chose. C'est un peu dommage compte tenu que je trouvais que dans cette période de prolongation-là, il était vraiment, vraiment solide. Puis tu disais, il a peut-être réussi avec l'infériorité numérique. Tu allais écouler cette punition-là. Puis là, tu disais, bon, le Canadien va peut-être en profiter pour aller chercher le but de l'autre côté. C'est pas arrivé. Mais vraiment, je pense que... On peut laisser encore un peu de temps parce que, bon, d'ici la pause olympique, il y a encore beaucoup de matchs, mais je trouve que Samuel Montembeault est en train de démontrer qu'il est de retour puis qu'on peut éventuellement penser à fonctionner à deux gardiens avec lui comme numéro 1 ou numéro 1A, 1B, là, peu importe, avec Fowler, probablement, en tout cas, de la manière dont je vois les choses en ce moment. on reviendra peut-être sur la déclaration de Jakub Dobesch après le match de lundi, là, mais disons que je pense qu'il commence à sentir la soupe chaude.
Hier, moi, après le match, j'ai fait la gaffe de regarder les réseaux sociaux. Puis il y a un message qui revenait, c'était « Montembeau a trouvé une façon encore de perdre ». Ça, honnêtement, je trouve que c'est de la malhonnêteté de la part de certains partisans.
Sur quel réseau sociaux tu te tiens?
Ça, c'était le réseau X, pour qui des fois, c'est l'univers qui se résume sur le réseau X, mais c'est aussi l'univers des mauvais commentaires parfois. Puis, c'est Montembeau a gardé son équipe dans le match. C'est bien plus Montembeau qui a donné un point au classement que l'inverse. Oublier la défaite. Tu regardes depuis le rappel de Jakub Fowler, le 10 décembre, Montembeau est maintenant 3-0-1, moyenne de 2,40, taux d'efficacité de 921. Puis Guillaume le disait, il ressemble au gardien de l'an dernier, il est beaucoup plus en confiance. La semaine dernière, il n'avait pas peur de dire qu'il a parlé au psychologue de l'équipe, s'est confié avec Jean-François Ménard. Il y avait autant de ménage à faire au niveau mental que technique. Ça lui a fait du bien de retourner avec le Rocket. Puis tu sens que Montembeau se reconstruit. Depuis le début de l'année, combien de fois qu'il a dit « j'ai besoin de coller des bons départs ». Pas juste un match, puis après ça, je m'éteins. Mais là, ça fait quand même 4 bons départs d'affilée pour Samuel Montembeau. C'est pas le plus gros des échantillons, mais c'est encourageant. Tu as Jakub Fowler qui, lui aussi, a une moyenne, un taux d'efficacité très intéressant depuis qu'il est arrivé dans ce ménage à 3. Là, on n'a pas le choix, on est aussi bien d'en parler. Il y a Jakub Dobesch qui, lui, mentionne au collègue Herb Zurkowski de la Gazette. Herb, un don, celui de poser une question directe après un match. Herb, grosso modo, a demandé à Jakub Dobesch comment il se sentirait advenant un renvoi du côté du Rocket de Laval si jamais ça devenait lui le gardien en trop à Montréal. Puis Dobesch a été assez cinglant en disant qu'il ne comprendrait pas, qu'il ne mériterait pas parce que tout ce qu'il fait depuis le début de l'année, bien, c'est gagner des matchs. C'est vrai qu'il gagne des matchs, mais il y a la façon aussi qui te mène à une victoire. Contre les Canucks, c'était pas du tout étincelant. C'était 3-3 après 40 minutes, en grande partie, puisque Dobesch en arrachait. Il y a eu les erreurs aussi, les revirements de Harbour Jacky dans son propre territoire, qui n'ont pas aidé, mais Jakub Dobesch n'était pas un gardien en grand contrôle face aux Canucks. Voyons voir comment ce manège à 3. Je crois que cette semaine, on va finir la semaine avec les 3 gardiens, mais dans les 2 prochaines semaines, c'est un calendrier qui est un petit peu plus allégé avec 3 matchs par semaine et non pas 4. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on n'aura pas le choix d'y aller d'une décision.
Et pour la progression, on est un peu pris entre l'arbre et l'écorce où Fowler gagne peut-être plus à être dans la Ligue américaine puis à jouer quotidiennement, là, ou du moins 3 matchs sur 4. Mais c'est vrai que présentement, il joue mieux que Dobesch. Alors que plus tôt dans la saison, c'était Dobesch qui jouait mieux que Montembeau. Là, Montembeau joue mieux que Dobesch. Fowler est un peu au milieu de tout ça. Quand il se fait pas prendre en arrière du filet par la baie vitrée qui fait dévier une rondelle devant le filet contre les Red Wings samedi. T'es Canadien présentement. Faut que tu regardes à long terme ou tu regardes à court terme présentement? C'est quoi ta décision présentement quand tu analyses tout ce qui se passe? Puis oui, il y a la pause olympique qui s'en vient aussi, qui vient peut-être encore plus changer les choses ou tu vas avoir un gardien qui va jouer. Je parle de Fowler, par exemple. Si tu gardes Fowler à Montréal, il ne va pas jouer autant que tu voudrais pour un gardien qui se développe présentement. Mais si tu sais que tu l'envoies dans la Ligue américaine pour 2 semaines et demie par la suite, où il va jouer beaucoup plus, là, tu peux te dire, ben écoute, il va se reprendre là. Tu gères ça comment? C'est une optique que vous autres, vous gérez ça comment? C'est une optique à court terme, à long terme, à moyen terme?
Ben, je pense que le Canadien est... C'est cette saison, l'important, là. On tente de faire les séries. La course est très, très serrée. Le classement bouge de jour en jour, de semaine en semaine. On doit gagner des matchs.
Parle-en à notre Super 16 qu'on doit rédiger chaque semaine.
Un exercice compliqué. mais non, je pense que on regarde ça sur une... Je comprends la notion de développement de Fowler, mais quand même, il va obtenir... sa part de départ s'il demeure avec le Canadien. En ce moment, c'est un gardien qui est plus en contrôle, qui, je crois, inspire davantage confiance à ses coéquipiers quand il est devant le filet, parce que, tu sais, on revient sur le match de lundi, là, si ça avait été une autre équipe que les Canucks de Vancouver, une équipe plus talentueuse, plus opportuniste, ça aurait pu être 6-3 Canucks facilement, là, parce que Dobesch a nagé dans son demi-cercle à plusieurs reprises. Tu sais, je parlais de Montembeault qui n'était pas déporté. Dobesch, ça a été, pendant les 60 minutes de ce match-là contre les Canucks, ça a été très, très difficile au niveau de son positionnement et tout ça. Donc, lui aussi aurait avantage peut-être à aller dans la Ligue américaine puis, tu sais, travailler vraiment sur... Regarde, je retrouve mes repères, je suis solide devant mon filet. Ça peut être utile aussi autant à Dobesch qu'à Fowler. Je comprends la notion que Fowler est ton gardien d'avenir, mais en ce moment, Fowler ne montre aucun signe de ralentissement ou peut-être de t'sais, au début, on était craintif peut-être d'avoir sa confiance, est-ce que ça allait jouer, t'sais, si jamais il perd des matchs dans la Ligue nationale. Puis en ce moment, il prouve qu'à chaque fois qu'il connaît des difficultés, ben, il revient plus fort au match suivant. Et t'sais, c'est un jeune qui est très, très solide mentalement. Donc moi, j'aurais pas de problème à faire un petit bout de chemin avec Fowler, quitte à peut-être rendu au mois de février-mars, ben si Dobesch fait bien dans la Ligue américaine, qu'il y a un ralentissement du côté de Fowler, tu peux jouer avec les deux jeunes comme ça, à condition que Montembeault reste le gardien qu'il est en ce moment. Je pense que ça donne de belles options, mais l'important, c'est de regarder cette saison, compte tenu que tu ne vois pas d'effet négatif sur Fowler en ce moment. Je pense que tu peux continuer d'y aller dans cette voie-là.
Mais ça reste un monde... Je peux comprendre les propos de Jakub Dobesch s'il regarde strictement la colonne des victoires. Ça peut être un monde qui est cruel. Quand tu regardes son dossier, il est 14-5-3 depuis le début de l'année. C'est une bonne fiche, mais si tu pousses un petit peu plus loin, son taux d'efficacité à 8,88, sa moyenne de 3,01, ne peut pas vraiment se comparer avec Jakub Fowler qui est à 908 puis 2,46. Donc ça, c'est... Puis tu sais, on parlait tantôt, est-ce qu'on met en danger le développement de Jakub Fowler qui techniquement jouerait plus à Laval? Depuis son rappel, grosso modo, Fowler a pratiquement un départ sur deux. Puis Dobesch et Montembeault se partagent un petit peu l'autre portion. Donc, je ne crois pas qu'on nuit à son développement. Fowler a quand même eu 9 matchs depuis le rappel, depuis le 10 décembre. Dobesch et Montembeault ont eu également 9 matchs. Donc, ils jouent sa part de match. Si tu regardes aussi de la façon qu'ils ont construit l'horaire, qu'ils construisent le calendrier, moi, je trouve qu'il y a des signes qui ne mentent pas. Ils ont présentement une grande confiance en Jakub Fowler. Le match juste avant Noël à Boston, le dernier match avant une petite pause, qui obtient le départ? Jakub Fowler. Le premier match au retour du congé de Noël à Tampa Bay, qui obtient le départ? Jakub Fowler. Le premier match au Centre Bell, au retour d'un long voyage, qui obtient le départ? Jakub Fowler. Donc, en ce moment, ils gèrent Jakub Fowler comme s'il était le gardien numéro un de l'équipe. Ils ont gagné du temps. Ça a permis à Montembeault de construire sa confiance. Puis ça peut être triste pour Dobesch, mais Montembeault, tu peux pas t'en débarrasser. Dobesch peut passer par le balotage. Il n'y a pas de danger avec lui si jamais tu le retournes du côté du Rocket de Laval. Donc, je ne crois pas que ça va arriver demain matin, mais cette décision-là devra se prendre tôt ou tard. Peut-être que tu peux poursuivre le manège à trois jusqu'aux Olympiques. Aux Olympiques, c'est Fowler qui prend la route de Laval, qui obtient quelques départs, mais au retour, tu n'as pas le choix, là. Tu ne garderas pas éternellement trois gardiens, d'autant plus que les trois gardiens vont prendre une place au sein de la formation. Guillaume, on le voit à chaque match, là, il y a encore du monde sur la passerelle de presse, mais cette infirmerie-là, tôt ou tard, elle va se vider. Jake Evans va revenir au jeu. Josh Anderson est revenu au jeu du côté de Washington. Patrick Laine pourrait revenir au jeu un jour. Kirby Dach aussi. Alex Newhook, lui, il n'a pas recommencé à patiner. C'est un petit peu plus tard pour Newhook. mais tu vas avoir besoin d'espace pour les 23 joueurs.
Oui. Un joueur qui va toi regarder un petit peu qui présentement pourrait revenir de prochainement, c'est Zachary Bolduc. Connaît une passe plus difficile, beaucoup plus difficile. Bon, obtenu une mention d'aide hier contre les Capitals, qui a mis fin à sa léthargie, qui avait 9 matchs sans points. Dans le cas de Bolduc, tu y as parlé, GF. Comment il vit ça présentement? Tu as parlé, bon, pas hier, là, tu as parlé avant le match contre les Canucks, là, où il était au milieu de sa séquence difficile. Bolduc, là, qu'est-ce qu'il doit faire présentement pour se relancer? Hier, vraiment, beau travail sur le but de Gallagher. Je pense que c'est lui qui a été responsable de ce but-là. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Puis, est-ce qu'il commence à être inquiet lui-même? Oublions pas, là, c'est un jeune joueur, Zachary Bolduc, là, pour être sur la galerie de presse ou pour être à Laval? Là?
Ouais. Ben, je pense que ça reste des scénarios, là, surtout celui du Rocket. C'est quand même le scénario comme le plus alarmiste. Bolduc est très conscient de cette réalité-là. Guillaume le connaît bien aussi. C'est un jeune homme qui est très franc dans ses propos. Ne se gêne pas pour dire que sa période d'adaptation est probablement plus longue que souhaitée avec le Canadien. À sa défense, par contre, c'est le gars qui a été le plus barouetté d'un trio à l'autre depuis le début de l'année. Il n'a pas profité d'une grande stabilité. Ce qui lui a fait mal, c'est quand il a obtenu sa chance avec Caulfield et Suzuki. Disons que le gâteau n'a pas levé. Alexandre Texier a été capable de produire plus rapidement dans une chaise offensive avec Suzuki et Caulfield. Mais ça ne veut pas dire que tu jettes Zachary Bolduc au vidange aussi. Là, c'est comme le...
Ah, surtout pas.
C'est le hot take, c'est si ça. On veut, en ce moment. Là, quoi faire de Zachary Bolduc? Il y a certains analystes, justement, qui prônent le retour avec le Rocket de Laval, mais froidement, si tu regardes ses statistiques, il a 10 buts en ce moment. Il en a marqué 19 l'an dernier avec les Blues de Saint-Louis. Produit sensiblement au même rythme que l'an dernier avec les Blues. Faut pas oublier, par contre, qu'à pareille date l'an passé, c'était encore très froid comme statistique. C'est après la confrontation des quatre nations que Bolduc a vraiment il est parti sur une aire d'aller puis produisait un bon rythme avec les Blues. Il a connu un bon premier tour éliminatoire également contre les Jets de Winnipeg. Mais ce qu'il y a d'avantageux, c'est qu'on dirait que c'est difficile d'ébranler sa confiance. Du moins devant les journalistes, nous dit qu'il reste confiant, travaille avec Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, la dernière fois qu'il nous a parlé un petit peu plus en longueur sur Zachary Bolduc, disait qu'il s'améliorait justement dans sa gestion du jeu, dans son territoire défensif, comprend mieux maintenant le système défensif du CH. Du côté de Saint-Louis, c'est un système de zone. Donc, Bolduc disait que c'était peut-être un petit peu plus facile que le système prôné par Martin Saint-Louis. Ça fait une différence, mais jamais j'ai senti une grande impatience dans les propos de Martin Saint-Louis. Je crois plus qu'il va vouloir travailler que Bolduc. C'est un jeune de 22 ans. Combien de fois dans le passé on disait Juraj Slafkovský doit peut-être aller faire un séjour du côté du Rocket de Laval, puis jamais Slafkovský a obtenu un billet de métro pour la Ligue américaine. On a toujours voulu travailler avec Slav. Je compare pas, là, c'est pas deux cas identiques, Bolduc et Slafkovský, mais ça reste un jeune joueur sur qui le Canadien va vouloir miser à long terme. Je crois qu'on va vouloir travailler étroitement avec Zachary Bolduc plutôt que de le rembouiller du côté du Rocket de Laval.
Oui, puis souvenez-vous, j'allais juste dire, dans le temps de. Vous souvenez de la léthargie de Josh Anderson, là, qu'est-ce que disait Martin Saint-Louis? Tant qu'il va vouloir s'aider, moi, je vais l'aider. C'est un peu la mentalité de Saint-Louis, donc j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on va adopter dans le cas de Bolduc. Tu disais, Guillaume?
Oui, c'est ça. Mais en même temps, on parle de sa production, de sa disette offensive et tout ça, mais en même temps, il faut se rappeler qu'il jouait il n'y a pas si longtemps avec Dano et Gallagher, qui ne sont pas nécessairement des joueurs à qui on demande une production offensive importante. Là, ce sont des joueurs de soutien.
Il a joué avec Leno aussi à l'aile d'un quatrième trio.
J'allais dire, on n'est plus en 2021. Ben,
non, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Puis hier, ce que j'ai remarqué, Anderson revient dans la formation. Ben là, on rétrograde Gallagher sur le quatrième trio. On laisse Bolduc sur le troisième avec Dano et Anderson. Fait que pour moi, c'est quand même une marque de confiance envers Bolduc. On lui dit, regarde, t'es notre gars de troisième trio. On a confiance en toi que les choses vont débloquer. Puis tu regardes sa production, oui, mais des jeux comme il a fait hier sur le but de Gallagher derrière le filet, c'est un gars qui travaille. C'est pas un gars que tu peux isoler des séquences puis qu'il se traîne les patins, regarde dans les estrades. Là, il donne l'effort. Donc, tant qu'il va faire ça, pour moi, ce sera pas un problème pour Martin Saint-Louis. Puis, il faut aussi se rappeler qu'il y a un Owen Beck qui est dans la formation In and Out aussi, que ça pourrait être un... Lui aussi qui va sauter son tour, qui va retourner à Laval. Donc, je pense qu'on ne faut pas sauter aux conclusions et dire que Zachary Bolduc s'en va avec la roquette de Laval quand les blessés vont remonter. Je pense qu'il est un peu plus haut dans la hiérarchie là, des Canadiens.
Puis, n'oubliez pas, quand que certains blessés vont revenir, il y en aura peut-être d'autres qui vont prendre le chemin.
Oui, c'est ça.
Depuis le début de l'année, jamais l'infirmerie du CH, pratiquement jamais cette infirmerie-là a été vide. Donc, il faut rester patient.
Les gars, la dernière fois qu'on s'est parlé, la semaine passée, le Canadien s'en allait jouer un match le soir contre les Flames de Calgary. On avait un deuxième 2-2. C'était le Texier Party qui s'est révélé au Centre Bell. 6.2 matchs pour Alex Texier. C'était la folie en France. On en a beaucoup entendu parler sur nos réseaux sociaux. Quand vous regardez ce que Texier a fait dans cette semaine-là, est-ce que c'est difficile pour les Canadiens de pas s'emballer trop? De rester concentré. Je voyais des comparaisons avec d'autres joueurs puis disais, c'est pas le premier à réaliser une séquence comme ça. C'est que c'est tellement à l'opposé de ce qu'on a vu de Texier ici et là dans sa carrière, plutôt dans la saison avec les Blues aussi. Les Canadiens, tu gères ça comment présentement, cette situation Texier-là où ça va bien hier encore toucher le poteau en première période?
Bien, dans un passé pas si lointain, il y a eu un Rem Pitlick de ce monde qui avait connu un très bon départ. Raphaël Harvey-Pinard aussi avait eu 25 matchs environ avec le Canadien où il était tout feu, tout flamme. Il faut garder un petit pied sur le frein. Mais Alexandre Texier, ça reste un joueur qui est talentueux, qui a été repêché justement en raison de ses habiletés naturelles. Il y a eu la semaine de rêve avec 6 points en 2 matchs, mais contre les Canucks, il a encore connu un très bon match avec 2 passes. Contre les Capitals, on l'a vu obtenir des chances de marquer. Il suit. Il n'y a aucun problème à patiner avec Suzuki et Caulfield. Il a l'intelligence aussi pour jouer avec ces deux joueurs-là. Je crois que l'expérience va se poursuivre. Pour l'instant, Alexandre Texier ne mérite absolument pas de perdre sa place à l'aile du premier trio. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on lui donne quelques présences en désavantage numérique. C'est un joueur qui est quand même complet. À court terme, il gagne son pari.
Il faut se souvenir quand même, tu sais, c'est un choix de deuxième tour. Il a toujours eu un grand potentiel. Puis moi, je me souviens, dans les premières années de sa carrière avec les Blue Jackets, il collaborait sur notre site avec son message texte. Là, avait une chronique par mois pour nous raconter. C'est un excellent jeu de mots.
J'aime, tu sais, ça date quand même de quelques années. Presque plus personne dit ça maintenant, message texte. C'est un texto, mais bon...
Ça aurait pu être texto.
Texto.
On pourrait reprendre ça avec texto.
Texto ou pas le faire. En tout cas, vas-y, je te laisse
suivre. Mais c'est Robert Laflamme, notre ancien collègue, qui s'entretenait avec lui une fois par mois. Puis il avait aussi beaucoup parlé avec Jarmo Kekäläinen cette année-là. Puis Jarmo Kekäläinen tenait beaucoup à Alexandre Texier. Il voyait un grand potentiel. Il croyait en lui. Tu sais, puis à sa première année quand même, à ses premières saisons, a quand même démontré de belles choses du côté de Columbus. Finalement, ça n'a peut-être pas fonctionné autant qu'on l'aurait voulu de ce côté-là, mais faut se souvenir de ça. Tu sais, il y a toujours eu ce potentiel-là. Est-ce que le Canadien a trouvé la clé pour l'exploiter? Peut-être. Est-ce que le fait d'évoluer dans un marché francophone, de devenir un peu... Je dirais pas qu'il est devenu la coqueluche de l'équipe, mais les gens l'aiment beaucoup. Après son tour du chapeau, après, genre, on a entendu un partisan siffler la Marseillaise là, dans les gradins derrière nous. Fait que, tu sais, il y a comme un certain attachement quand même entre la base de partisans puis Alexandre Texier, compte tenu que c'est un Français puis que c'est le seul qui évolue dans la Ligue nationale. Il est volé à Montréal. Je pense qu'il y a un petit gain là. Est-ce que ça lui permet de peut-être plus s'émanciper, de plus profiter des moments? Lui dit qu'il n'a jamais été aussi heureux que ça. Ça se transpose probablement sur la patinoire. Là.
C'est probablement le plus gros facteur, Nick, d'une deux secondes. Là. C'est un jeune homme qui a retrouvé le bonheur. Ça peut paraître cliché, là, mais à Saint-Louis, je crois qu'il était complètement perdu avec une équipe qui ne voulait pas lui confier un rôle. Puis il ne forçait pas la main non plus pour obtenir justement un rôle majeur du côté des Blues. Donc, jeune homme heureux qui sait aussi qu'à 26 ans, des chances dans la Ligue nationale, il n'y en aura pas 25. Donc lui, ça doit, sa carrière doit se replacer sur les rails. C'est ce qu'il fait actuellement avec le CH. Puis c'est, ça représente une belle histoire. Tu sais, il y a quelques années, le CH avait réclamé Paul Byron au balotage, puis Byron a fini par connaître une très, très belle carrière avec à Montréal. Donc, est-ce qu'Alexandre Texier pourrait suivre les traces d'un Paul Byron? Mais ça reste à voir, mais pour l'instant, écoute, il est... Disons que si son objectif était de mêler les cartes puis de se positionner dans la hiérarchie de l'équipe pour l'éventuel retour des blessés, ben oui, il peut cocher et il a réussi.
C'est fait. Puis je pense qu'il faut noter aussi que ça en dit beaucoup sur la culture de l'équipe. Des joueurs qu'on ne voulait plus ailleurs arrivent ici puis réussissent à connaître un certain succès. Il y a quelques années, ça n'aurait probablement pas été le cas avec les Canadiens. Là, on est capable d'entrer des pièces puis se moule au casse-tête qui est déjà en place. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est très positif aussi.
Oui. Les Sabres de Buffalo qui s'amènent à Montréal demain. Des gens qui nous écoutent le podcast ce soir. Comment? Oui, excuse. À Buffalo, oui. Les nouveaux Sabres de Buffalo, l'équipe qui ne sait plus comment perdre, qui a gagné 8 de ses 10 derniers matchs, qui en a gagné quoi, 10 de fil même, si je ne me trompe pas, 10-11 ouais. de fil, qui sont présentement en plein milieu de la course aux séries éliminatoires. Vos attentes pour ce match-là, est-ce que c'est un match qui... Est-ce que... Les Canadiens peuvent tomber dans le piège comme d'autres équipes ont dû faire dans cette séquence victorieuse-là des Sabres qui, justement, sont plus les mêmes depuis que le directeur général Kevin Adams a été remercié?
Bien, je pense qu'il faut être plus respectueux que simplement dire que c'est un match piège. Là. C'est une équipe qui gagne beaucoup, beaucoup de matchs de hockey. Guillaume parlait de Jarmo Kekäläinen, mais c'est l'effet Jarmo du côté de Buffalo. Un DG qui débarque, qui ne réalise aucune transaction majeure. Sauf le retour au jeu de Josh Norris, qui a donné quand même de l'énergie. Puis tu regardes la brigade de défenseurs, ils ont Owen Power, ils ont Rasmus Dahlin, le top 4 Bowen Byram, Samuelson, ils ont un bon top 4 de défenseurs. C'est une équipe qui est en confiance, Tage Thompson joue bien, Alex Tuck également, Zach Benson qui est un petit ailier fougueux, une petite peste avec les Sabres, donc... C'est un match qui sera difficile pour le CH à Buffalo. Là. Je m'attends vraiment pas à une petite rencontre facile. C'est une équipe aussi qui pousse. Ils n'ont pas fait des séries depuis quasiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale du côté de Buffalo. c'est 14 ans, si je ne me trompe pas, la disette des Sabres. Donc, ça fait très, ça. Très, très longtemps. Rasmus Dahlin n'a jamais joué un match en série. Il y a un paquet de joueurs qui ne connaissent pas l'environnement éliminatoire du côté de Buffalo. Donc, c'est un calendrier qui est encore difficile pour
les CH. Je pense que la dernière fois qu'ils ont fait des séries éliminatoires, ils étaient dirigés par Lindy Ruff.
Oh oui, c'est 2011. Je suis pas mal convaincu que c'est 2011.
Puis il a réussi à pas changer.
Il y a quand même, faut noter, les Sabres ont 7 points de retard sur les Canadiens. En ce moment, ils ont 3 matchs en main. Et les deux équipes s'affrontent 2 fois dans les 2 prochaines semaines. Donc, ça va être 2 matchs qui, au-delà d'être des pièges, ça va être des matchs très, très déterminants pour le classement, là, qu'on pourra peut-être éventuellement regarder vers l'arrière au mois de mars, au mois d'avril, puis se dire ces deux matchs-là ont été assez déterminants là, pour la place 2000... en série, le classement et tout ça.
2011, dernière année où les Sabres ont joué en série. Donc, 14 saisons consécutives, peut-être une 15e.
Et ce qu'ils vont faire, les séries, si je vous demandais de vous mouiller présentement? Là.
Moi, j'aimerais. Puis si jamais les Sabres participent aux séries, je crois que Guillaume Lefrançois se loue un appartement à Buffalo parce qu'il pourrait y avoir les Sabres en série, le combine, le repêchage. Donc, Guillaume pourrait regarder pour un 3 mois du côté de Buffalo.
Commencé à essayer de vendre le projet de rester à Buffalo entre le combine et le repêchage, c'est à suivre.
Ouais, non, mais tu sais, je dis ça avec en riant, en niaisant, mais ce serait quand même agréable de voir de nouvelles formations en série.
Bon. Ouais.
Puis
on est dû pour un petit changement de gamme.
C'est un marché, tu sais, des fois on regarde de haut Buffalo, mais quand cette équipe-là gagne, les belles années des Sabres de Buffalo, il y avait énormément d'ambiance dans le building, dans l'édifice. Donc, oui, ce serait le fun.
Regarde juste un peu plus au sud, à Orchard Park, là, les Bills. Là. C'est la folie, la Bills Mafia, puis tout ça. Puis je veux dire, les Bills aussi en ont connu des années de misère. C'est relancé. C'est sûr que si les Sabres peuvent se relancer, ça aussi, ça va repartir. On parlait des Olympiques, de Texier plutôt, un petit peu plus tôt, qui va être aux Olympiques avec l'équipe de France. Et là, il y a peut-être une mauvaise nouvelle pour l'équipe canadienne. Braden Point qui s'est blessé au genou dans le match contre les Flyers de Philadelphie. C'était lundi, si je ne me trompe pas. On dit semaine en semaine, on va réévaluer ça hebdomadairement chez le Lightning. John Cooper a dit « on a évité le pire dans le cut point ». Cooper qui s'adonne à être l'entraîneur-chef aussi d'équipe Canada en plus du Lightning. Si Braden Point n'est pas en mesure d'être aux Jeux olympiques, messieurs, votre choix pour le remplacer, ce serait?
Moi, je vais avec Connor Bedard. Je pense que c'était le joueur qui était le plus près de la fameuse bulle à l'annonce de la formation. Je pense qu'il a continué, il continue à faire son travail et remis de sa blessure qu'il avait subie là, quelques semaines avant l'annonce. Donc, pour moi, c'est je fais appel à Connor Bedard pour remplacer Braden Point. C'est un joueur qui va jouer sur le top 6 à qui on va donner des responsabilités offensives. Donc, ce serait un remplacement parfait.
J'aurais aucun problème avec le choix de Connor Bedard. Je crois que ça pourrait être logique d'y aller vers le phénomène des Blackhawks de Chicago. Mais je regarde aussi du côté de Dallas. Wyatt Johnston est un gars qui m'intrigue énormément. Une cinquantaine de points avec les Stars. C'est un gars qui est un bon marqueur. Peut jouer facilement au sein d'un top 6. C'est un petit peu le monsieur à tout faire du côté des Stars de Dallas. Joueur très intelligent. Et John Cooper parlait d'une évaluation de semaine en semaine. On a évité le scénario le plus catastrophique, mais c'est probablement le scénario où sa saison était terminée. Les Olympiques s'ouvrent dans 3 semaines. Si tu parles d'une évaluation de semaine en semaine, ça prendrait un petit miracle pour voir Braden Point du côté de Milan.
Ouais, puis aussi, et tu veux probablement le voir jouer quelques matchs avec le Lightning avant de l'amener à Milan. Là. Tu vas pas dire ben on va l'amener avec l'équipe en espérant qu'il soit complètement rétabli une fois rendu là-bas. Là. Je pense que
c'est un joueur par contre qui est dans les hautes estimes de la direction. Ouais, faut oublier que c'était un top 6. Il avait déjà sa place assurée. Est-ce qu'on pourrait se permettre d'attendre, de le garder comme réserviste en début de tournoi si jamais il cogne à la porte pour un retour? Ça, c'est une autre question. Toi, Nick, ça serait qui ton choix?
Ben, j'allais juste dire que c'est une belle patate chaude pour John Cooper s'il doit décider à la dernière seconde s'il amène un de ses joueurs ou non aux Olympiques. Moi, j'irais avec le 4e meilleur marqueur de la Ligue chez les joueurs canadiens, Mark Scheifele. Il connaît une super saison à Winnipeg. Lui-même, il l'a dit, j'ai tout fait. Il n'y a rien d'autre que j'aurais pu faire de plus. C'est un droitier lui aussi, comme les deux que vous avez nommés. C'est un excellent joueur, plus d'expérience peut-être que Bédard. J'aime le choix de Bédard. Honnêtement, j'adore le choix de Johnston. J'irais juste avec Mark Scheifele dans mon cas. Un capitaine aussi, ça fera pas de mal avec... un capitaine de plus, ça fera pas de mal avec l'équipe Canada. Ouais, ben messieurs, visiblement, les Canadiens sont d'accord avec ce qu'on a dit à propos d'Alexandre Texier. Ça vient tout juste de tomber. Nouveau contrat pour Texier. Contrat de 2 ans, valeur annuelle de 2,5 millions pour Texier. Ça vient juste de tomber. Là. Donc, bonne nouvelle pour le joueur français. Bonne nouvelle pour la vente de chandails du tricolore en France. Texier qui, comme on a dit, a gagné son pari avec le tricolore, vient d'être récompensé. C'est un peu le salaire qu'il faisait du côté des Blues, chez les Blues de Saint-Louis. Donc, pari gagné pour Texier. On aurait aimé ça qui annonce ça peut-être une demi-heure plus vite, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. En terminant, messieurs, je vous amène, il y a eu congédiement du côté des Blue Jackets de Columbus. Dean Evason qui perd son job, remplacé par le vénérable Rick Bonus. Un chat, 9 vies, Rick Bonus, je pense qu'il en a 15 parce que c'est à peu près le nombre d'équipes qu'il a dirigé ou fait partie dans la Ligue nationale de hockey. Bonus a 70 ans, était à la retraite, mais bon, tu peux pas sortir le hockey de Rick Bonus, même si lui a sorti du hockey. On se souvient l'histoire, sa conjointe avait eu des ennuis de santé et avait décidé de laisser son poste avec les Jets. Il est de retour. C'est un player's coach, c'est un coach qui est vraiment aimé, mais est-ce que c'est assez pour, selon vous, permettre aux Blue Jackets de réduire l'écart, de peut-être s'insérer dans la course aux séries éliminatoires. Eux qui sont, ce matin, sont avant-derniers dans la section Atlantique devant les Rangers de New York pour qui ça continue d'aller mal. Alors, selon vous, est-ce que ça se relance, cette équipe-là, les Blue Jackets?
Les Blue Jackets restent très loin, puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes à devancer. Disons que la mission est difficile, mais si tu cherchais de l'expérience, déjà que Dane Evason en avait de l'expérience, mais tu peux pas tomber mieux avec Rick Bowness, qui a été entraîneur-joueur avec les Jets de Sherbrooke en 1982.
Parle français, donc, hein, Rick Bowness, un peu
ouais, plus débrouillé. C'est un des entraîneurs les plus charismatiques, les plus sympathiques de la Ligue nationale de hockey. Il y a une feuille de route tout simplement hallucinante. Son premier poste d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale, c'est en 88-89 avec les Jets de Winnipeg. Il n'y a probablement aucun joueur des Blue Jackets qui était né en 88. Lui, il était déjà derrière un banc. Il est entraîneur adjoint. Écoute, il roule sa bosse depuis très longtemps. Ouais,
j'ai une anecdote là-dessus. Rick Bowness, au cours de sa carrière, a dirigé les pairs de Mason Marchman, Cole Sillinger puis Miles Wood aussi. Les pairs maintenant dirigent les fils. Et passionné comme il est, attention, peut-être éventuellement les petits-fils, si ça se poursuit dans son cas.
Ouais, mais ça.
C'est un entraîneur qui a beaucoup de vécu. Mais les Blue Jackets, c'était tellement... Tu sais, je suis pas surpris de la saison des Blue Jackets. Je suis surpris, à vrai dire, qu'on monte la porte à Dane Evason parce que c'est sûr que ça allait retomber, les Blue Jackets, avec tout ce qu'on a vécu l'année dernière, les émotions, dans le cas, bien évidemment, du décès de Johnny Gaudreau. C'est une équipe qui a roulé à l'adrénaline toute l'année dernière. Ça me rappelle un peu les Canadiens de 2021-22, là, quand on a perdu Carey Price, on a perdu Shea Weber. Cette équipe-là, c'est sûr que ça allait être difficile à faire lever du sol cette année. Puis c'est ce qui se passe. Puis je suis surpris qu'on n'a pas donné plus de temps à Dane Evason. Mais comme tu dis, GF, il y a tellement d'équipes présentement entre les Blue Jackets puis les Canadiens, puis une place en séries éliminatoires que ça s'annonce impossible, même en amenant un player's coach. Comme tu dis, là, on est présentement à 6 points d'une place en série. On n'est pas
c'est
si loin
points,
que ça.
Mais six équipes entre eux et une place en série. Fait que c'est,
puis t'as
c'est
les
une
Panthers,
lourde tâche.
T'as les Panthers qui devraient logiquement remonter. T'as les Sabres qui jouent du bon hockey. T'as les Devils qui je peux pas croire à quel point ça va pas bien présentement. Les Sénateurs aussi devraient jouer du meilleur hockey. Donc, on se retrouve pris dans une mauvaise
situation.
Mais peut-être
que son mandat, c'est tout simplement... Les séries, sans le dire, on a peut-être déjà commencé à y faire un X sur ce projet-là, mais c'est peut-être d'aider les jeunes joueurs. Adam Fantilli n'a pas encore atteint son potentiel avec les Blue Jackets. Ken Johnson, je crois que la relation devait être tendue avec Dane Evason. C'est un joueur qui ne produit pas offensivement cette saison, mais qui est probablement plus talentueux que ses chiffres l'indiquent. Donc, Bowness, c'est peut-être là à court terme. Un plaster pour venir aider. Mais c'est aussi une autre preuve qu'au hockey, c'est parfois qui tu connais. Ça reste un petit milieu.
Ouais.
On pige dans le même bocal les noms, puis ça tourne à gauche, à droite. Puis c'est pas une critique envers Rick Bowness, là, je le comprends. S'il reçoit un appel, puis il a envie d'essayer un nouveau défi, puis c'est un homme, comme je disais, qui est intelligent, hyper. Tu sais, il se présente bien, il est capable de vendre un projet pour une jeune équipe. Mais un jour, tu n'auras pas le choix aussi de peut-être regarder ailleurs que dans les 26 mêmes noms qui reviennent tout le temps.
Ouais. On poursuit l'émission. Lundi, le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey a dévoilé sa liste de mi-saison des meilleurs espoirs pour le repêchage 2026. On va parler de ça aujourd'hui avec justement le dépisteur du Bureau central, Jean-François Danfaux. Salut, JF.
Salut, ça va bien?
Comment tu vas?
Ça va très, très bien.
Ça va très bien. Merci d'être là, JF, un régulier du podcast chaque année. Je pense pas qu'on t'avait déjà reçu par contre pour la liste de mi-saison, mais là, on s'est dit, ça prend JF sur le podcast aujourd'hui. Écoute, j'ai regardé un peu, la Ligue nationale de hockey a fait paraître une vidéo sur les réseaux sociaux de comment ça se passe, vos réunions puis tout ça à Toronto. Vous vous êtes réunis, tous les dépisteurs ensemble pour vraiment venir avec quatre listes, là, techniquement. Liste des patineurs nord-américains et internationaux, gardiens aussi nord-américains et internationaux. Parle-moi un peu comment ça se passe, ton travail dans tous ces angles-là. Qu'est-ce que tu as fait depuis le début de l'année, là?
Ben, c'est certain que depuis le mois de septembre, tout le côté d'aller au match, faire des rapports, faire nos listes personnelles. Puis là, quand on arrive au meeting, c'est vraiment là qu'on met toutes les choses ensemble. Non seulement ma liste que j'ai faite du Québec, mais les matchs crossover que j'ai fait aussi. C'est un des avantages qu'on a à la centrale, c'est que on couvre non seulement notre territoire, mais on doit aussi couvrir le territoire un peu partout en Amérique du Nord. Donc, ça nous donne une vue d'ensemble, si tu veux, sur les espoirs disponibles pour le prochain repêchage.
Bon, la question qui revient depuis le début de l'année, depuis qu'il est parti dans la NCAA, c'est tellement pas la même réalité que l'année dernière. Gavin McKenna, vous l'avez au sommet de la liste des espoirs nord-américains. C'est quoi les discussions autour de lui? Je regardais justement dans la vidéo, puis je pense que c'est Derek Gregory, si je ne me trompe pas, qui posait la question. Est-ce que tu veux être l'équipe qui repêche McKenna ou tu veux être l'équipe qui n'a pas repêché McKenna? Quand vous analysez ce joueur-là présentement, c'est quoi les discussions autour de son profil, autour de sa candidature pour le premier choix de pêchage?
Pour moi, c'était unanime qui était numéro un. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a accompli dans les dernières années aussi. Il est un joueur dominant dans la WHL les dernières années. Il est un joueur important qui a apporté son équipe à la Coupe Memorial l'année passée. Je pense que le fait qu'il y ait peut-être un petit peu moins de points dans la NCAA cette année, ça l'a fait réfléchir quelques personnes, mais en général, quand tu regardes le talent du joueur, ses habiletés de marqueur comme que de passeur, son sens du jeu, il y a tellement d'habiletés naturelles que c'est dur, je pense, de passer à côté d'un McKenna. Faut pas oublier aussi que la NCAA est probablement beaucoup plus forte que les années passées avec tous les joueurs de la Ligue canadienne qui s'est joint cette année. Ça fait une ligue vraiment difficile à jouer. Puis, tu sais, le fait qu'il s'est établi aussi rapidement, qu'il produit quand même un pace assez raisonnable cette année, je pense que ça démontre aussi ses qualités de joueur.
Jeff, juste curieux, tu viens de dire qu'il n'y a pas eu de débat par rapport à la centrale pour le placer au premier rang en Amérique du Nord. Mais si on fait l'exercice premier rang, quand on mélange avec les Européens, est-ce qu'à ton avis, c'est le même raisonnement, McKenna demeure au sommet de la pyramide?
Si tu me demandes mon avis personnel, oui, parce que j'ai peut-être plus, je connais un peu plus McKenna que je connais le côté européen. Mais c'est certain qu'il y a probablement un débat à faire pour le premier au total. Ça sera aux équipes à décider. C'est sûr que les équipes, eux, ont des dépisteurs qui font du crossover dans les deux ligues, dans les deux côtés. Donc, nous, on est vraiment séparés en deux. On a un personnel qui s'occupe uniquement du côté européen, puis on a un personnel qui s'occupe uniquement du côté nord-américain. Ça fait que c'est dur de faire des comparaisons quand t'as pas mis ton œil à 100% de ce côté-là. Mais de qu'est-ce que j'entends, oui, il y a un débat à faire entre les deux.
On a vu quelques joueurs se mettre au défi. Tu sais, on parlait de McKenna, parti de la Ligue de l'Ouest pour aller dans la NCAA. S'il reste dans la Ligue de l'Ouest, probablement qu'on n'a aucun débat par rapport à sa position en vue du prochain repêchage. Il y a Tynan Lawrence aussi qui récemment a fait pris la décision d'aller à Boston University, jouer dans la USHL. Comment tu vois ça? C'est les joueurs qui préfèrent se mettre au défi que de ramasser les points puis s'assurer peut-être de leur statut en vue du repêchage. Quel genre d'effet ça peut avoir quand tu es un recruteur qui observe ces espoirs-là?
Je pense d'un côté, il faut que tu admires le risque que ces joueurs-là prennent. Je pense qu'ils font pour le bien de leur développement. C'est des joueurs qui ont accompli beaucoup au niveau junior, puis je pense qu'ils se sentent prêts à faire face au prochain niveau puis se développer le plus rapidement possible pour jouer à la Ligue nationale. Dans le cas de Lawrence, c'est un peu unique de partir à la mi-saison, mais d'un autre côté, c'est un joueur qui s'est établi rapidement l'année passée comme un joueur de 16 ans, une saison exceptionnelle dans la USHL, remporté le championnat, MVP de la Ligue dans les séries. Je pense qu'il y en avait deux autres qui avaient réussi cet accomplissement-là, c'était Fantilli et Celebrini. Donc, on parle de des noms quand même assez importants. J'ai hâte de le voir, je vais le voir au Beanpot prochainement à Boston. Donc, j'ai hâte de voir comment rapidement il peut s'établir au niveau de la NCAA.
tu disais, JF, c'était intéressant, tu disais la NCAA est probablement plus forte cette année, puis tout ça. Est-ce que c'est des choses qui ont été discutées? Est-ce que ça vous force un peu à réévaluer votre manière d'évaluer les joueurs vis-à-vis les performances? Tu sais, les stats, c'est une chose, mais vis-à-vis ce qu'on fait dans un calibre qui, soudainement, a pris une coche par rapport aux autres années?
Bien, c'est sûr qu'il faut le prendre en considération, mais tout le côté recrutement, c'est vraiment une projection. Tu sais, des fois, on s'emballe un peu comment est-ce que le joueur a joué dans le dernier 10 matchs ou comment ça a été dans la première moitié de saison. Puis c'est sûr, il faut l'évaluer, il faut le prendre en considération, mais quand tu regardes une projection de 2, 3, 4, 5 ans, tu sais, il faut que tu regardes l'ensemble du joueur, puis pas non seulement des performances à court terme. On se fait souvent prendre dans ce jeu-là. T'as des joueurs un peu qui squeeze le bâton l'année du repêchage, mais tu peux pas renier le talent que le joueur a en question. Donc, je pense qu'il faut que tu regardes de l'ensemble puis être capable de prendre une décision sur le long terme aussi.
Jeff, je ne vais pas t'amener sur un terrain glissant parce que tu couvres moins le territoire européen, mais tu l'as quand même vu du côté de Minneapolis puis Saint-Paul. Ivar Stenberg a gagné la médaille d'or avec la Suède. Si tu avais à nous décrire le profil de Stenberg, ça ressemble à quoi puis qu'est-ce qu'il va devenir au niveau de la Ligue nationale de hockey?
Pour moi, ce que j'ai aimé, c'est l'ensemble de son jeu. Évidemment, il y a un talent brut. Là. Côté patin, maniement de rondelle, exécution, vision de jeu. C'est tout ça classe dans la catégorie élite. Qu'est-ce que j'ai aimé de lui, c'est son niveau de compétition. Je pense qu'il l'a démarqué. S'engage dans les batailles un contre un, tout le temps le premier sur le forecheck. Très, très fiable défensivement. Donc, l'ensemble de son jeu, en plus de son niveau de talent, fait de lui quand même un joueur qui va être à considérer au numéro un, comme que j'ai mentionné tantôt. Je pense qu'il y a probablement un débat entre les deux. Puis, c'est pour moi, c'est ça qui était le fait marquant. Non seulement, tout le monde le savait qu'il avait un talent, il pouvait bouger la rondelle, puis il pouvait patiner, puis son sens du jeu est bon. Tout le monde peut le décrire de cette façon-là, mais de le voir compétitionner à un niveau très, très élevé contre des joueurs beaucoup plus plus âgé que lui, pour moi, ça a été une séparation.
Puis, si tu compares, mettons, juste avant, Guillaume, si tu compares justement quelqu'un qui est une équipe qui va repêcher McKenna, une équipe qui va repêcher Stenberg, c'est quoi la différence entre le profil des deux joueurs? Qu'est-ce qu'un va t'amener par rapport à ce que l'autre ne t'amènera pas nécessairement?
Bien, chaque joueur est différent et unique. McKenna, pour moi, c'est son sens du jeu, son playmaking. La façon qu'il peut, on dirait, il est tout le temps comme trois jeux en avant. La rondelle est sur sa palette, puis ça part tout de suite. Il y a vraiment un instinct qui est exceptionnel. Quand tu l'as vu jouer dans les dernières années, qu'il faisait à un jeune âge, on dirait qu'il continue à s'améliorer, puis il continue à performer encore mieux. Je pense qu'il y a un côté unique de ce côté-là, ce fabricant de jeu exceptionnel. Côté Stenberg, mais comme j'ai mentionné, il y a peut-être un petit côté de grit qui est peut-être un peu plus de son côté. Donc, il y a une différence entre les deux, mais c'est certain qu'une équipe qui aboutit avec un des deux aboutit avec un joueur exceptionnel. Donc, ça va être aux équipes à décider.
JF, cette liste-là fait toujours beaucoup réagir. Je regardais les commentaires hier sur les réseaux sociaux. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont peut-être étonnées de voir que Kalem Malhotra devance Tynan Lawrence. Tu sais, on parle depuis tantôt de McKenna, Stenberg. Ce sont des alliés au niveau des centres dans ce repêchage-là. Malhotra, vous le placez devant Lawrence. Qu'est-ce qui vous a montré cette saison à Brentford pour que vous le placiez là, que vous le favorisiez en tant que meilleur centre de cette QV-là?
Honnêtement, si tu nous avais posé la question en début de saison avant, ce qu'on avait prévu selon les saisons de l'année passée, je pense que j'aurais été probablement l'inverse. Malhotra, cette année, a porté son niveau à un niveau quand même très impressionnant. Joue des grosses minutes pour une équipe assez forte à Brentford. Quelqu'un qui peut s'impliquer dans les deux sens de la glace. Qu'est-ce que j'aime? Il peut transporter la rondelle de façon exceptionnelle. Il est très, très slippery, comme on dit, en mode hockey. Peut apporter la rondelle de sa zone jusqu'en zone offensive. Très créatif avec la rondelle, mais aussi très fiable défensivement. Donc, je pense que les instincts de son père aussi, capable de jouer dans les deux sens de la glace. Mais c'est très serré dans le classement. C'est peut-être que le fait que que Lawrence était blessé, qu'il a manqué beaucoup de matchs, ça l'a peut-être nuit un petit peu ce côté-là, mais il y aura probablement un débat d'ici la fin de la saison pour l'heure de ces deux-là.
Il y a deux défenseurs parmi le top 3 dans les Nord-Américains, Keaton Veroff et Carson Carrolls. On a vu au championnat mondial junior, Veroff a été un peu plus utilisé, plus important que Carrolls. Votre liste va dans ce sens-là, mais à quel point est-ce qu'il y a un écart entre les deux défenseurs présentement?
L'écart est très, très mince, puis tu peux même mettre Reed dans la conversation aussi. L'ordre entre les trois-là, je pense que ça peut varier de semaine en semaine, de mois en mois. Donc, ça va être un débat quand même assez intéressant d'ici la fin de la saison. Tu sais, le championnat mondial junior, il faut faire attention. Il y a des équipes qui utilisent les joueurs plus jeunes. Il y en a qui les utilisent un petit peu moins. Du cas de Reed, il a quand même été très, très impressionnant au championnat mondial junior, mais il a été donné l'opportunité de jouer des grosses minutes. Tandis que Verhoeve et Carrolls ont joué plus des rôles de profondeur. Mais trois défenseurs de qualité... Verhoeve, Carrolls, des formats différents, mais deux joueurs qui peuvent patiner, qui peuvent transporter la rondelle, qui peuvent s'impliquer physiquement, jouent à deux différents niveaux, un qui joue dans la NCAA, l'autre côté WHL. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération d'ici la fin de la saison. Mais comme j'ai dit, les trois défenseurs que j'ai mentionnés, il y aura probablement un débat pour l'ordre 1, 2, 3 d'ici la fin de la saison.
Au Québec, on regarde beaucoup ce qui se passe du côté de Xavier Villeneuve, de l'Armada de Blainville-Beaubriand. Qu'est-ce que tu vois de lui cette saison? On le classe 15e sur cette liste de mi-saison-là. Qu'est-ce qui vous a démontré? Qu'est-ce que vous voulez voir d'ici la fin de la saison là, au sein d'une équipe qui est aspirante, là, qui s'est outillée pour aller loin ce printemps?
Oui, absolument. Puis, tu sais, on l'a vu jouer, ça fait une couple de saison. On sait que c'est un défenseur dynamique. Pas un gros gabarit, mais qui peut s'impliquer offensivement, très, très créatif à la ligne bleue offensive, autant d'avantages numériques que 5 contre 5. Des habilités à la Hudson un peu. On espère que Hudson est en train d'ouvrir des portes pour les plus petits défenseurs. On dit qu'on a quelques bons défenseurs de 5 et 11 sur notre liste. On sait que les années passées, il n'y a pas eu beaucoup de repêchés des défenseurs en bas de 6 pieds. On pense que cette année, il y a des joueurs d'une catégorie spéciale. Villeneuve est inclus là-dedans. T'as Lynn, t'as Blyle à Moncton, t'as des bons patineurs, des très très bons patineurs qui peuvent s'impliquer dans les deux sens de la glace. Dans le cas Villeneuve, évidemment, sa spécialité c'est de créer de l'attaque, créer de l'offensive. On s'attend qu'il va continuer à faire ça, mais de façon responsable en même temps. C'est important de démontrer que t'es capable de jouer défensivement tout en apportant de l'attaque. Puis c'est là qu'on est rendu avec Xavier.
On s'attend à quoi comme QV pour la JMQ? J'ai vu beaucoup de joueurs, peut-être moins de Québécois, des joueurs un peu de partout là, dans la liste, et quelques même néo du Nouveau-Brunswick aussi. Bon, on s'attend à quoi comme QV?
Ça devrait être raisonnable. Dans le premier deux rondes, peut-être 4-5 joueurs qui pourraient s'établir là-dedans. Je te dirais au total, ça va peut-être se ressembler aux dernières saisons, peut-être un petit peu plus, peut-être... dans le 20-25, dépendamment du nombre de gardiens qui est repêché, parce qu'on a quand même un bon nombre de gardiens de but disponibles cette année au Québec. Donc, c'est dépendamment du nombre de gardiens qui va être repêché, le montant de joueurs de la Ligue générale du Québec pourrait augmenter aussi.
As-tu une carte cachée, un joueur qui t'est tombé dans l'œil, que tu as fait « Oups, celui, je vais le mettre plus haut que je pensais ».
Bien, on a parlé du jeune Blair à Moncton. C'est quelqu'un que je ne m'attendais pas... d'avoir aussi haut sur notre liste. Je pense qu'il est 35, si je ne me trompe pas, sur notre liste. Tommy Blair, un défenseur 5 et 11, peut-être un des meilleurs patineurs que j'ai vu cette année, fluide, quasiment à la Scott Niedermayer. Ça flotte sur la glace, peut jouer 40 minutes, puis je ne suis pas sûr qu'il a besoin de prendre sa douche après. Non seulement c'est un bon patineur, mais il s'améliore beaucoup avec la rondelle. Je trouvais au début de l'année que ses mains ne suivaient pas ses pieds. Mais de plus en plus, il s'améliore beaucoup comme fabricant de jeu, mène son équipe dans les points. Je pense qu'il mène la ligue au complet dans les plus et moins. Donc, une belle surprise qui s'est établie à Moncton cette année.
Hey, GF, un gros merci d'avoir été sur le balado encore une fois pour parler de tout ça. On va te revoir de toute façon. On va te reparler, c'est sûr, à la fin de la saison aussi, quand vous allez sortir votre liste finale de ce qui fait toujours jaser les meilleurs espoirs du repêchage. Un gros merci pour ta présence.
Merci beaucoup.
Merci, Jean-François.
Alors voilà, c'est ainsi que prend fin cette émission. Merci beaucoup à Jean-François Danfous qui était là il y a quelques secondes. Merci beaucoup aussi beaucoup vous deux, JF et Guillaume, d'avoir été là aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Toujours un plaisir.
Chers auditeurs,
on était synchro, Guillaume, c'était beau.
Ouais. Ouais. Ben, une belle chorale. Une belle chorale. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur votre plateforme d'écoute pour être certain de ne pas rater le moindre balado. Merci beaucoup et on se reparle très bientôt.